9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, reporter. Le grand public, vous avez découvert dans les émissions d'Yann Barthès, Le Petit Journal, puis Quotidien sur TMC. Et depuis 2 saisons, vous avez votre émission à vous, des grands reportages sur TMC après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro, les ravages du tourisme de masse. Vous attaquez demain au malaise chez les policiers avec cette question cash. Que fait la police? Une fois n'est pas coutume, surtout pour quelqu'un comme vous, qui a plutôt l'habitude de prendre le point de vue, sinon des victimes, du moins des gens d'en bas, si j'ose dire. Vous avez décidé de voir les choses du côté des policiers. Ce sont des victimes?
Je dirais pas que ce sont des victimes. On a décidé, oui, de voir le point de vue du côté des policiers parce que c'est des gens dont on parle beaucoup et qu'on entend peu. Mais le reportage est construit en donnant la parole aux policiers, mais en donnant aussi la parole à ceux qui sont victimes de violences policières.
Exactement. Vous avez pris le problème à la racine. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. À l'école de police, en l'occurrence celle de Reims. Surprise, là, ça fait lien avec ce qu'on disait avec Katel Pouliken, les femmes représentent 30% des élèves. Vous en avez rencontré 2, vous leur avez demandé leur motivation et surtout si elles craignaient de se retrouver sur le terrain, dans les quartiers difficiles, parce qu'on parle beaucoup évidemment des bavures en ce moment. Et j'ai été très étonné par la réponse et surtout par les motivations de ces jeunes femmes.
Lauriane et Laetitia ont déjà réalisé des stages en brigade, une expérience qui les a confortées dans leur choix.
Et vous, vous seriez prête là, en sortant d'école, à aller travailler dans certains quartiers difficiles?
Oui, je pense, oui. Bah après, moi, je l'ai déjà fait. Et puis, elle, c'est ce que je recherche. Parce que je me dis, c'est sûr, déjà, on s'ennuie pas, c'est sûr. Après, ça met un peu d'adrénaline parce que forcément, on a la confrontation, entre guillemets, avec ces jeunes. Moi, c'est ce que je recherche, entre guillemets, avoir un peu d'adrénaline, des choses comme ça, quoi.
Toute la difficulté sur le terrain, c'est justement de faire la part des choses entre l'adrénaline et le discernement. En gros, ce que sous-tend ce premier extrait, c'est qu'il n'est pas étonnant de se retrouver face à des bavures si les policiers recherchent volontairement l'adrénaline, Martin Veil.
Alors oui, on peut voir les choses comme ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est la formation. Ce sont des jeunes qui veulent être policiers, qui ont les motivations qui sont les leurs. Tout le rôle des instructeurs, c'est justement de juguler peut-être cette envie d'adrénaline pour leur apprendre quels sont les codes qu'il va falloir exercer plus tard. Et la vraie question que ça pose surtout, c'est entre la formation théorique, qui est courte, et la réalité du terrain, à quel point est-ce que les choses tiennent, à quel point est-ce que ce qu'on leur apprend dans le cadre d'une salle scolaire va se retrouver sur le terrain ou non.
Justement, vous avez vu ce qu'on leur apprenait, la technique d'étranglement qui est baptisée dans les manuels techniques de maintien de tête. À l'école de police, vous demandez à un instructeur de vous la montrer, de tester la technique sur vous. Il refuse parce qu'elle n'est plus enseignée. Mais on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'en même temps, les policiers ne comprennent pas pourquoi elle a été retirée de la procédure par Christophe Castaner. On n'a pas très bien compris s'il était toujours retiré, s'il avait été autorisé à nouveau. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là?
Alors en fait, pour l'instant, sur le terrain, elle peut encore être appliquée, mais elle n'est plus enseignée à l'école. Et ce qui est intéressant autour de cette technique, c'est qu'un avis devait être rendu le 1er septembre pour savoir si on l'a remplacée et si oui, par quoi. Et ouais. Pour l'instant, il n'y a toujours rien.
Vous dites qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de violences policières. Ce « on », c'est un « on » extrêmement collectif. Est-ce que c'est corroboré par les chiffres? Est-ce que c'est un effet d'optique ou à cause de l'irruption des caméras personnelles? Parce que maintenant, chacun a une caméra dans son téléphone.
Alors, c'est la grande bataille des chiffres. Il y a plusieurs enquêtes, les enquêtes de victimation et d'autres qui se basent sur les chiffres de la police. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, statistiquement, les violences, en fait, sont plutôt stables. C'est le sentiment d'insécurité qui progresse. Et effectivement, aujourd'hui, avec les caméras, avec le fait que tout le monde puisse avoir un iPhone et filmer, on a peut-être l'impression qu'on voit plus de ces images-là. Mais c'est deux choses différentes, si vous voulez, le nombre de violences policières et le sentiment de violence dans la société.
C'est justement parce que ce sont deux choses différentes que la question est très intéressante. Comment vous expliquez ce décalage? En gros, le sentiment d'insécurité augmente et le nombre de cas de violents est à peu près stable.
Alors, je suis pas sociologue, mais eux l'expliquent par plusieurs choses. Déjà, le poids de l'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une société où tout va très vite. Donc, ça peut être aussi le poids des chaînes info. C'est aussi les politiques. L'insécurité, c'est un enjeu politique et c'est un outil, si vous voulez, électoral qui est utilisé par certains. Faire peur, ça marche.
Vous êtes aussi allé filmer sur le terrain. En l'occurrence, c'était à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Vous avez accompagné une brigade en patrouille de nuit. Ensuite, retour de la tournée, vous vous retrouvez avec les policiers pour un débrief. Et là, vous leur parlez des jeunes qui arrivent ou non dans le métier.
Quand vous voyez un jeune collègue, 20 ans, qui débarque en ce moment, qu'est-ce que vous dites?
Je trouve qu'il est courageux.
Ouais, voilà.
Parce que moi, j'incite les membres de ma famille, les petits jeunes qui veulent rentrer dans la police à ne pas y rentrer.
Ah ouais ?
L'insécurité. L'insécurité totale. On est devenus des cibles à l'heure actuelle.
Et là, c'est le monde à l'envers. C'est la police qui redoute l'insécurité.
Exactement. Mais ce qui est assez dingue, effectivement, c'est que c'est un policier en service qui dit que lui conseille aux jeunes autour de lui de ne pas rejoindre les forces de l'ordre. Ce qui ressort de ce tournage à Roubaix, effectivement, c'est une forme de lassitude et un peu le côté « à quoi bon ?» À quoi bon faire tout ça ? Je pense aussi que pour beaucoup de gens qui portent l'uniforme, les critiques qui sont portées aujourd'hui contre la police font que le métier est plus dur. Il y en a beaucoup qui nous disent ça. Ils nous disent « mais on comprend pas, en 2015, pendant les attentats, on était applaudis par la population. Aujourd'hui, ouais. 5 ans après, on nous crache dessus. »
C'est d'ailleurs l'image qui ouvre ce reportage. Vous êtes également allé tourner dans des cités, à Corbeil-Essonne, à Grenoble et même avec des dealers. Vous restez avec nous, Martin Veil. On en parle juste après ça dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Que fait la police ? C'est la question que pose le reporter journaliste Martin Veil. Réponse demain sur TMC à 21h15 avec un long reportage en immersion. Vous êtes allé du côté des policiers. Vous êtes également allé tourner dans une cité à Corbeil-Essonne. On voit l'éternel face à face des jeunes et des policiers. Comment vous avez réussi à être accepté avec votre caméra là-bas ? Vous êtes allé comme ça, le nez en l'air si j'ose dire, ou avec un fixeur ? Comment ça se passe quand on veut aller tourner là-bas ?
Non, pas du tout. En fait, on a pris contact avec un jeune qui en l'occurrence est rappeur et puis on lui a expliqué quel était notre projet et qu'on avait vraiment à cœur d'entendre entre guillemets les deux côtés et donc ça nous intéressait d'aller dans son quartier pour comprendre en fait le rapport que les jeunes ont avec la police. Corbeil c'est un lieu de violence, d'ailleurs de violence aussi interquartier, pas qu'avec la police, et il se trouve qu'au moment où on était là-bas effectivement il y a un des jeunes qui se fait interpeller et du coup la séquence montre un petit peu la défiance qu'il y a des deux côtés. Il y a notamment un policier qui dit on va pas baisser notre culotte, ce qui est très étonnant dans la bouche d'un représentant des forces de l'ordre, et en même temps du point de vue des policiers à ce moment-là ils sont en train de contrôler un deux roues qui n'est pas homologué, donc ils font leur travail. Et c'est cette incompréhension et cette défiance en fait qu'on voulait illustrer. Et les jeunes qui sont là-bas, il y en a beaucoup qui nous parlent d'interpellations qui sont passées de manière violente, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas aussi le fait d'être contrôlé plusieurs fois dans la journée, il y en a notamment qui nous dit que parfois il est contrôlé jusqu'à 5 fois. Voilà, c'est ça qui nous intéressait si vous voulez.
L'an dernier, l'IGPN, la police des polices, a été saisie, c'est votre chiffre, de 1460 affaires, dont 868 pour violences volontaires. Ce qui est intéressant, c'est ce chiffre qui arrive, c'est 41% de plus que l'année précédente. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique en partie aussi à cause des violences liées aux gilets jaunes et toutes les personnes qui ont été blessées dans ces affrontements. Je crois que c'est plus de 2000 personnes, 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, ce qui explique en fait cette hausse de saisine de l'IGPN.
Alors vous avez également rencontré des dealers en banlieue parisienne, vous filmez dans une cave, on les voit vous donner les prix, les salaires aussi, vous les avez en tête ? Moi je ne connaissais pas les salaires, combien on pouvait gagner ?
Oui, alors je suppose que ça dépend des endroits. Là-bas, en fait, effectivement, c'est quelque chose en fait qui est très hiérarchisé, un petit peu comme dans une entreprise. Donc, ça dépend du poste que vous occupez. Il me semble qu'un guetteur gagne 50 euros par jour pour ce qu'on appelle un bosseur. Donc, c'est la personne qui vend de fait dans la rue. Je crois que c'est 100 euros. Et les têtes de réseau, elles, peuvent gagner jusqu'à 5 ou 6 000 euros. Il me semble que c'est ce que la personne nous dit à ce moment-là.
Voilà, et ce qu'on appelle un jour, c'est midi, minuit. Alors justement, en parlant de tête de réseau, vous avez interrogé le chef de la bande, donc celui qui parle, au sujet des violences, des règlements de compte qui font des morts dans les quartiers, dans toute la France. Et sinon approuvé, vous avez expliqué le tour de vis annoncé par Gérald Darmanin via la police. On écoute.
Du point de vue de l'État, c'est pas possible de laisser des règlements de compte s'opérer sans que la police intervienne, en fait.
Mais eux, c'est quand c'est médiatisé. Quand une racaille tue une racaille, ils s'en battent les couilles.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, il a déclaré qu'il voulait faire la guerre au trafic. Il va y avoir plus de descentes de police. Il a même accompagné des équipes sur le terrain. Ouais. Il veut multiplier les contrôles.
Ouais. Ben, qui fait ça ? Ben, les équipes brûleront encore plus. J'ai que ça à dire. Ce sera encore plus la guerre. Quoi ? Après, quand ce sera la guerre civile ?
Pourquoi la guerre civile ? S'il n'y a plus de trafic ?
Il n'y a plus de trafic, c'est simple. Il n'y a plus de drogue dans un quartier. Ben, c'est simple. Plus de vols, plus de braquages, plus de tout. C'est simple comme bonjour, c'est la guerre.
Crainte partagée par une partie de l'exécutif, vous pensez que l'État laisse faire le trafic, en tout cas le canalise pour, comme on dit, acheter la paix sociale ?
Alors, je ne pense pas, mais en tout cas, ce que dit ce jeune homme est intéressant. En fait, ouais. Si vous voulez, il y a plusieurs façons en fait de voir le trafic, et je pense qu'il faut pas non plus gommer la dimension de la misère sociale. Il y a certains quartiers dans lesquels c'est plus difficile de s'en sortir. C'est pas être un militant politique que de dire ça. Et il y a notamment un des jeunes juste avant en fait l'extrait que vous avez passé qui explique qu'il est absolument pas fier en fait de faire ce qu'il fait, mais que pour lui, c'est un moyen d'être indépendant, c'est un moyen aussi de donner des sous à sa mère. Ce que ce jeune l'a dit, moi j'ai pas à me prononcer dessus, mais c'est vrai que ça interpelle, et on peut se poser la question du tout répressif pour mettre fin à ces situations dans les quartiers.
Ouais. En parlant d'interpeller, vous êtes allé à Grenoble, la ville qui a le plus fort taux de criminalité en regard de sa taille. Vous avez suivi les équipes de la BAC, qui est la brigade anti-criminalité. Il y a une séquence assez ahurissante. On est en plein centre-ville. Il y a un parc assez mignon où il y a des mamans avec leurs enfants, mais parc aussi où il y a souvent des dealers, et les agents de la BAC procèdent à un contrôle. Ils arrêtent un jeune devant un scooter, le jeune est en train de fumer un joint, le policier lui demande d'écraser le joint, ce qu'il fait, il lui demande si le scooter est à lui. Le jeune répond non, il est à ma mère. Il lui fait ouvrir le coffre, dans le coffre il y a des talkie-walkie, des sachets de conditionnement habituellement utilisés pour mettre des doses de drogue, et le jeune dit je sais pas ce que ça fait là, et ça passe, et la plaque d'immatriculation est cachée par un masque anti-Covid. Eh bien tout ça ne constitue pas un flagrant délit, et la BAC le laisse partir. Est-ce que ces policiers sont très tolérants, ou est-ce que c'est la loi qui est tolérante?
Je pense pas que les policiers.
Est-ce qu'ils appliquent le code? Est-ce qu'ils appliquent le code de procédure?
Oui, alors là, en l'occurrence, vous savez, désormais, on peut verbaliser pour consommation de stupéfiants. Donc peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait de lui demander d'éteindre le joint et de pas lui mettre une amende. Oui. En revanche, on a le droit d'avoir des sachets de conditionnement et des talkie-walkie. Si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de raison en fait d'interpeller l'individu.
D'accord, mais on peut se dire que c'est quand même étrange de se balader avec des sachets et des talkie-walkie dans un scooter qui a sa maman dont on ne sait pas ce que les sachets font là. Voilà ce que je veux dire, c'est tout d'un coup, on se dit tout la câble, il y a des gens qui vont au poste pour moins que ça, voilà ce que je voulais dire.
On peut tout à fait se dire que c'est étrange, mais là en l'occurrence, après moi je ne suis pas là pour juger le travail des officiers de la BAC, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de quoi constituer une infraction et que ça ne valait pas le coup de les emmener au poste. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est effectivement de voir le rapport des policiers avec les jeunes et dans certains quartiers. Il y a une autre séquence juste après qui est, on va pas dire amusante, mais qui est saisissante. Ils s'écoutent les uns les autres. On arrive dans un quartier, le fameux quartier du Mistral dont on a beaucoup parlé.
C'est incroyable.
Donc en fait, les guetteurs repèrent les policiers et échangent via ces petites radios que vous venez de citer pour dire, là il y a la Passat, donc c'est la voiture de l'équipe avec laquelle on est en l'occurrence. Ouais. Le truc que les dealers ne savent pas forcément, c'est qu'en fait les policiers écoutent ces conversations radio-là.
Ouais.
Donc on se retrouve dans un jeu du chat et de la souris très étonnant.
Vous savez quoi, Martin Veil ? Les dealers de Grenoble, ils vont voir votre reportage demain soir. Ils vont voir qu'ils sont écoutés et qu'ils sont scannés sur leur talkie. Merci beaucoup. Votre grand reportage, Que fait la police ? C'est demain soir sur TMC à 21h15.